Attention, ce message se détruira automatiquement à la fin de l'écoute. Agent, vous devez créer un podcast de 25 minutes sur 7 thèmes différents et vous avez un temps imparti de 6 heures. Bienvenue aux agents, Zélie, Charline, Cassandre, Esteban et Thomas. Agent, acceptez-vous votre mission ?
Oui !
Oui !
Votre mission, si vous l'acceptez, consistera à démêler l'un des plus grands malentendus de notre époque. Les jeunes seraient-ils vraiment indifférents à la politique ? Vous devrez déjouer les idées reçues et remettre en cause ce que tout le monde croit savoir. Les forces en présence sont nombreuses. La mission est périlleuse, mais quelqu'un doit le faire.
Mission acceptée. Entre les jeunes et la politique, est-ce vraiment le désamour ? Cette idée reçue est un perpétuel sujet de débat. On nous la resserre à chaque élection comme un plat réchauffé, oublié dans le frigo un peu trop longtemps. Les jeunes ne votent pas, les jeunes s'en fichent, les jeunes sont la génération du vide, du selfie et du scroll infini. La démocratie, c'est pour les vieux. Sauf que voilà, cette histoire est au mieux incomplète, au pire, elle est fausse. 68% des 18-25 ans se disent intéressés par les questions de société selon une enquête Parole aux jeunes de 2020 et 76% d'entre eux déclarent suivre l'actualité politique. Un tiers des jeunes militent ou a milité dans une association, un collectif, un mouvement. L'éducation, la santé, l'égalité femmes-hommes et le climat sont les sujets politiques principaux chez les moins de 30 ans. Alors d'où vient ce mythe du jeune apolitique, avachi sur son canapé, les écouteurs sur les oreilles, imperméable au monde ? Il vient en grande partie d'une confusion fondamentale entre politique et politicien, entre l'engagement et les institutions. Pendant des décennies, on a mesuré l'engagement citoyen à l'aide d'un seul geste, glisser un bulletin dans une urne. Or, les jeunes ont élargi les horizons. Pétitions massives, grève pour le climat, mouvement MeToo et Black Lives Matter, collectifs de quartier, médias alternatifs sur les réseaux sociaux et j'en passe. La politique n'est plus affaire d'urne. Ce n'est pas un désengagement, c'est une réinvention des formes. Si les anciennes générations peinent à le voir, c'est peut-être parce qu'elles cherchent l'engagement là où il n'est plus. Dans les meetings, les partis, les cortèges syndicaux d'un autre temps. Oui, l'abstention des jeunes est réelle et documentée. Lors des dernières élections législatives françaises, moins d'un jeune inscrit sur deux s'est déplacé. L'abstention, pour beaucoup, peut être perçue comme une protestation, un « vous ne me représentez pas » lancé à la face d'un système qui, avouons-le, peine souvent à les représenter. Il suffit de regarder la moyenne d'âge des parlementaires pour le comprendre. Alors, mission accomplie ou impossible, ce désamour est un symptôme de la rupture générationnelle qui s'opère, celui d'institutions qui ont du mal à évoluer, de partis qui recrutent leurs cadres dans les mêmes grandes écoles depuis 30 ans, d'un débat public souvent capté par des formats comme le JT de 20h qui parle une langue que les jeunes ne pratiquent plus. Mais ils ne sont pas apolitiques, bien au contraire, ils s'expriment autrement, plus vite, plus directement, parfois plus radicalement. Ce serait une erreur de lire cela comme de l'indifférence. Votre deuxième mission, si vous l'acceptez, consistera à révéler un secret bien gardé par des amis insoupçonnés. J'ai nommé nos compagnons félins. Pour ce faire, les agentes Zélie et Charline se chargeront de démasquer leur complot. Gare à leurs griffes, la mission est dangereuse.
Connaissez-vous Gérald de Brisson ? Cet homme émet la théorie que les chats sont des extraterrestres. Est-ce que les chats sont des extraterrestres ? Nous avons posé la question à des enfants qui avaient totalement confiance en leurs chats.
Non.
Non, mais parce que c'est des chats et ils miaulent.
Et ils miaulent ? Et pourtant, tu penses pas qu'ils sont un peu partout comme des extraterrestres ?
Oui.
Du coup, tu penses quoi au final ?
Je sais pas trop.
Tu sais pas ? Merci beaucoup.
Nous avons également posé la question à des adultes qui, eux, avaient un avis assez mitigé.
Les chats.
Non, les chats, ils sont trop mignons.
Bien
entendu.
Bien entendu.
Bien entendu.
Ah, pardon, bien entendu.
Les yeux.
Un chat, vous avez déjà vu un chat ? C'est bizarre quand même.
C'est vrai.
Ah ouais,
si. Ça ressemble pas à un humain.
C'est vrai, jusque-là, on est d'accord.
Donc, c'est un extraterrestre.
Nous avons aussi eu l'honneur d'avoir l'avis d'un chat directement.
Les chats ?
Oui, les chats.
Moi-même qui suis un chat, je ne pense pas, car je viens d'une autre planète et j'ai envie de tout coloniser, donc non, je ne pense pas.
Votre troisième mission, si vous l'acceptez, consistera à comprendre l'essence du rap. L'agent Zélie devra nous rendre un rapport déterminant si le rap est de droite. Cette mission est complexe. Le rap est né aux États-Unis, créé par des jeunes en colère qui souhaitaient passer des messages. Mais en France ? En France, les rappeurs cherchent aussi à faire passer des messages, comme sur le racisme ou la redistribution de l'argent. C'est le cas de plusieurs rappeurs, comme Diams, qui dans le titre « Ma France à moi » nous évoque sa France de rêve, où la jeunesse tiendra tête jusqu'à ce qu'on la respecte. Les rappeurs français parlent également du droit de vote, comme par exemple Aurel San, qui dénonce les personnes âgées qui votent pour une France qui ne correspond pas aux jeunes. Jeunes qui, eux, n'ont pas le droit de vote, et donc vivent dans une France idéalisée par des personnes qui, je cite, n'ont plus que 3 ans à vivre.
Génération Z, parce que la dernière, ça se voit clairement qu'on n'a pas connu la guerre. Tous les vieux votent, ils vont choisir notre avenir. Mamie vote Marine, elle a 3 ans à vivre. Youtubeur fasciste, pseudo subversif, voilà ce qu'on a quand on censure les artistes.
Nous avons également demandé à notre figure du rap, à Aras, Zindoun, qui n'a pas su nous donner de nom de rappeur de droite assumé. Le rap serait-il alors de gauche ?
Votre quatrième mission, si vous l'acceptez, consistera à interviewer Mélissandre Fortuno. Les agents Esteban et Cassandre devront lui soutirer des informations habilement. La mission est à exécuter méticuleusement.
Nous accueillons maintenant l'actrice et metteuse en scène Mélissandre Fortuno. Après une licence d'art du spectacle à l'université d'Artois et une formation au conservatoire d'Arras et de Lille, elle construit une carrière exigeante et diversifiée.
Au théâtre, elle est membre de la compagnie Avec Vue sur la mer et vient de mettre en scène et d'interpréter Les Voix de la Liberté, une adaptation du récit de voyage de Mélusine Malander présenté à Avignon.
Au cinéma et à la télévision, elle a tourné pour de grands noms. On a pu la voir dans Le Scaphandre et Le Papillon de Julien Schnabel en 2006. Dans la série Les Papillons Noirs sur Arte et Netflix et plus récemment dans L'Amour Ouf de Gilles Lelouch.
Depuis peu, elle est également présidente de l'Office culturel d'Arras. Mélissandre Fortuno, bonjour.
Bonjour.
Pas trop stressée pour cette interview ?
Oh, un petit peu, comme à chaque interview, mais ça va.
Eh bien, voyons ça de plus près et tâchons d'en apprendre plus sur vous. Vous, vous êtes formée au théâtre ici. Vous avez ensuite voyagé un peu partout en France pour votre travail et avez travaillé pour de grands réalisateurs comme Gilles Lelouch au cinéma. Aujourd'hui, vous êtes présidente de l'Office culturel d'Arras. Pourquoi avoir fait le choix de rester dans la région ?
Je suis arrivée à Arras pour mes études et après je suis partie à Lille pour faire le conservatoire de Lille. Et là, quand j'ai eu mon diplôme, la question s'est posée de partir à Paris, faire une école ou de commencer à travailler dans la région. Et en fait, j'avais peur de partir, j'avais peur de m'éloigner de mes parents, j'avais peur de Paris, je connaissais personne à Paris pour me guider en fait. Et donc j'ai choisi de rester là, d'abord à Lille, puis après je suis revenue sur Arras parce que même Lille c'était trop grand en fait. J'aimais beaucoup le côté ville et village de la ville d'Arras, donc je suis revenue. Et en fait, tout s'est enchaîné très vite. On m'a donné du travail tout de suite au théâtre. J'ai été engagée. J'ai passé plein de castings parce qu'il y a plein de films qui sont tournés dans la région Hauts-de-France. Et en fait, une jeune comédienne de 20 ans qui justement est restée là et pas partie à Paris, bah, en fait, on n'était pas nombreuses. Donc, il y avait moins de concurrence. Et c'est comme ça que je suis restée là et j'ai travaillé. Donc, quelques années plus tard, vers 25-30 ans, la question ne s'est plus posée. J'ai fait mon trou ici.
Ce métier exige une disponibilité quasi totale. Comment on concilie ça avec le fait d'être jeune maman ? Est-ce que l'industrie fait des efforts pour s'adapter ou est-ce encore entièrement à la femme de s'organiser ?
C'est pas facile, mais je pense que j'ai la chance de tomber dans une époque où c'est moins difficile qu'avant parce qu'il y a moins de tabous, c'est beaucoup plus assumé, on a le droit d'être comédienne et d'avoir une vie de famille aussi. Par exemple, je suis tombée enceinte quand j'étais en pleine création d'un spectacle. J'ai dû reporter une partie de la tournée. Et là, j'étais hyper stressée de devoir l'annoncer à mes équipes, de l'annoncer aux directeurs, aux directrices de théâtre. Je ne savais pas comment faire. Et la nouvelle a été accueillie, mais merveilleusement bien. Tout le monde m'a dit « Félicitations, c'est pas grave, le spectacle, on le fera l'année prochaine. » Et moi, j'avais peur que tout soit annulé. Donc ça a été super, on est vraiment dans un changement de mentalité. Je pense qu'il y a 10 ans, ça ne se passait pas comme ça. Pareil pour le cinéma, je l'avais dit à personne. Et un jour, il y a un directeur de casting qui m'appelle, qui me dit « Mélissandre, j'ai un casting pour toi, est-ce qu'on peut se voir cette semaine ?» Et là, je lui dis, je suis désolée, mais je suis... Enfin, désolée, comme si j'avais à être désolée, en plus, n'importe quoi. Je lui dis, je suis enceinte de 7 mois, donc j'ai pas du tout le même corps, et puis je pourrais pas tourner dans la foulée, quoi. Et il me dit, ah, bah c'est pas grave, viens quand même, je te cadrerai pas le ventre, et puis le tournage, c'est dans 4 mois, voilà, tu seras... Enfin, t'auras accouché, ça ira, quoi. Et j'étais hyper surprise de ça. Et en fait, tout a continué. J'ai continué à être engagée. Et finalement, ça se concilie très... Alors, ça demande une grosse organisation de ne pas être là, mais comme n'importe quelle femme qui travaille. Hein, voilà. Mais ça se passe plutôt bien. J'encourage toutes les comédiennes à devenir maman.
Vous montez sur les planches, vous êtes derrière la caméra et vous mettez en scène des pièces de théâtre. À quand la réalisation ?
Oula ! Ouais, j'adorerais en fait. Moi, en fait, j'adore toucher à tout. Je suis très curieuse, j'ai envie d'apprendre tout le temps. Mais là, ça demande une technique que j'ai pas, des connaissances que j'ai pas. J'avais fait une option audiovisuelle au lycée, donc j'ai quelques bases. Mais ça me semble vraiment trop loin, trop dur. Déjà, faire de la mise en scène, c'est être un chef d'orchestre. Voilà, c'est déjà pas facile d'être sur tous les fronts. Et je crois que le cinéma, c'est un art qui me dépasserait. Donc, j'en rêverais, mais en sachant très bien que j'en ai pas les capacités. Il faudrait commencer par un court-métrage, déjà. En revanche, j'adore le montage. Et c'est vrai que quand j'étais jeune comédienne, je démarrais et je me disais, oh là là, c'est pas facile. Et je me disais, tiens, si ça marche pas, je ferai une formation de monteuse, parce que j'adore le montage vidéo.
Le milieu du cinéma et de la télévision véhicule des standards physiques et de beauté difficiles à atteindre. Comment y faites-vous face ?
C'est pareil, ça, je crois que ça a changé. Enfin, ça dépend. Des fois, ça revient, ça change. Oui, on se met la pression sur ce sujet-là. Il faut... Attends, on a toujours envie... c'est un métier de séduction, c'est un métier où on doit plaire. Varie aussi. Et maintenant, on voit quand même dans les films plein de types de femmes ou d'hommes. Après, ce qui est important, c'est plutôt d'être en forme physiquement. Moi, je fais du sport, de la danse, pour avoir l'énergie. C'est pas une question de physique, mais plutôt ouais, d'énergie, parce que c'est un métier qui est fatigant. D'être sur les planches ou d'être à la caméra, il faut être tonique, quoi. C'est important de s'entretenir, de faire du sport, parce que on peut ne pas travailler aussi pendant quelques semaines, quelques mois, et quand on nous appelle du jour au lendemain pour un casting, il faut être prêt, quoi. Ou quand on a une pièce qui dure 2 heures, c'est éprouvant d'être 2 heures en scène, et donc il faut faut se sentir en forme.
Eh bien, merci beaucoup, Mélissande Fortumeau.
Merci à vous.
Votre 5e mission, si vous l'acceptez, consistera à nous faire voyager vers le futur, dans les années 2050. L'agente Charline nous soumettra son expérience au travers de cet envol. Dans le cadre d'une mission impossible, je suis partie dans le futur, en 2050. En 2036, une loi est passée et les voitures sont devenues interdites. Les transports communs sont devenus gratuits pour faciliter le déplacement quotidien des citoyens. Les vélos sont à présent une mobilité majeure pour pouvoir aller au travail, rendez-vous ou encore l'école. Il y a également les pistes cyclables qui ont intégré toutes les rues, tout comme les voies pour les transports en commun. Les enfants sont sensibilisés à une formation pour vélo, trottinette électrique et autres. Cette formation permet de garantir la sécurité de tous. D'autres pistes ont été réalisées pour pouvoir aussi faire des balades et échanger avec autrui. Maintenant, les métros, les bus, les trains et les tramways sont moins bondés car il y a beaucoup plus d'horaires variés. J'ai pu observer que tout le monde s'est très bien adapté. Les enfants sont plus épanouis et l'écologie est au centre de la ville pour bénéficier d'un avenir durable. Dans les programmes d'élections municipales, les mobilités douces sont devenues essentielles. Cela m'a permis de comprendre qu'en 2050, la ville n'est sûrement plus la même, mais elle est beaucoup plus développée.
Votre 6e mission, si vous l'acceptez, consistera à exposer votre avis sur l'interdiction des réseaux sociaux aux moins de 15 ans. Loi proposée par Laure Miller qui doit encore être examinée au Sénat. Mission destinée à l'ensemble de l'équipe Mission Impossible.
Êtes-vous pour ou contre l'interdiction des réseaux sociaux en dessous de 15 ans ?
Pour, dans la mesure où les réseaux sociaux ont un impact sur la santé mentale des jeunes. On peut noter la dépression, des problèmes liés à la vision qu'on a sur son corps. On a des jeunes qui ont des troubles de l'alimentation à cause des réseaux sociaux.
Je suis pratiquement d'accord, à part que moi je serais contre pour certaines choses, notamment aussi le fait de se faire des amis ou le thème du divertissement aussi est en partie responsable sur ça. Parce que certes les réseaux sociaux, oui, ont un impact négatif, mais aussi un impact positif sur ça, notamment par exemple tout ce qui est pour le divertissement, les jeux vidéo, tout ça. Après, je pense aussi que les enfants doivent faire attention et que les parents surtout, parce qu'il ne faut pas non plus que l'enfant passe 7 heures sur son téléphone, il faut aussi que les parents soient derrière, qu'ils mettent par exemple une restriction de temps. Voilà.
Je suis d'accord aussi parce que je trouve que quand on est en période de l'adolescence, on ne fait pas toujours attention à ce qu'on regarde sur les réseaux sociaux et ça peut aussi avoir un impact négatif, on est plus naïf. On peut croire beaucoup de choses qui sont fausses et c'est important aussi d'être à un âge où on est quand même plus mature pour comprendre certaines choses.
Je suis à peu près d'accord, surtout à l'interdiction, surtout de TikTok, parce qu'il y a beaucoup en ce moment de contenu suicidaire, de scarification, pornographique et pédopornographique. Il y a plus de la moitié aussi sur les réseaux qui a moins de 15 ans. Je serais surtout d'accord sur l'interdiction aux messages sur TikTok parce que y a un de mes amis qui s'est fait à cause de pédophiles et pervers sur mineurs auxquels les réseaux sont la cible des pédos ou le cyberharcèlement aussi. Donc ma conclusion est oui, non. Moi je dirais plus faut bloquer certaines choses sur des applis mais pas fermer tous les réseaux sociaux pour les moins de 15.
Moi, je suis d'accord aussi. C'est juste que, après, au niveau des blocages, oui et non, les sites ont aussi leur part de responsabilité. Ils ont qu'à, on va dire, mettre des paramètres de restriction au niveau des bans, par exemple, pour ceux qui sont, on va dire, censurés, qui disent des choses pas très gentilles, on va dire, pour rester dans le cadre de l'enfant.
Et surtout aussi que parfois, quand les adolescents veulent partager ce qu'ils vivent, ils mettent souvent, ils écrivent ce qu'ils ressentent et tout ça. Et ça peut parfois aussi avoir un grand impact mental.
Pensez-vous qu'il y aurait des répercussions sur les jeunes si la loi contre les réseaux en dessous de 15 ans serait acceptée ?
Oui, je pense qu'il y en aurait quand même parce qu'il y a beaucoup de personnes qui se font des amis virtuels grâce aux réseaux sociaux et ça leur permet d'avoir de plus sociabiliser. D'avoir au moins un groupe d'amis, tandis que si cela s'est retiré, ils vont se retrouver extrêmement seuls et surtout s'ils n'ont pas l'habitude d'aller voir les gens, ils sont gênés et tout ça, ça peut être quand même assez dérangeant pour eux.
Moi je pense que ça causerait aussi un risque de sevrage pour certaines personnes parce que les algorithmes des réseaux sociaux et particulièrement TikTok sont très addictifs. Donc pour les jeunes qui sont extrêmement présents sur les réseaux sociaux, supprimer complètement cet accès, ça sera très dur pour eux. Ils vont être violents. Enfin, il y a des parents qui ont déjà commencé à interdire les réseaux sociaux à leurs enfants et ils deviennent immédiatement très violents. Et des pédopsychiatres le caractérisent comme la première phase du sevrage.
Je suis totalement d'accord, étant donné que les réseaux sociaux, quelque type de truc que ce soit, sont une sorte de drogue. Voilà. Donc, forcément, quand on y goûte, on devient addict et que si, par exemple, on n'a plus cette dose, entre guillemets, on devient forcément agressif, même dépressif, ça dépend de la personne.
Après, moi, je trouve que ça a aussi un impact sur la liberté d'expression des jeunes et aussi, ça déplace le problème parce que on n'éduque toujours pas les jeunes aux problèmes et aux dangers des réseaux sociaux. On supprime, entre guillemets, le problème qui est l'accès aux réseaux sociaux sans supprimer le problème des pédocriminels, du grooming, du cyberharcèlement. Juste, on le déplace et en fait, on met la culpabilité non pas sur les acteurs de ce système, mais littéralement sur les utilisateurs qui sont souvent victimes des conséquences des réseaux sociaux.
Les parents jouent un rôle aussi au niveau de l'enfant. Ils doivent l'éduquer, on va dire, au niveau du réseau social à faire un thème de prévention sur cela. Et aussi, le terme de solidarité, je pense, doit avoir un point là-dessus.
Votre septième mission, si vous l'acceptez, consistera à déterminer si nos rapports sociaux sont destinés à la compétition ou à la solidarité. Les agentes Charline et Zélie devront être sur le terrain.
Maintenant, dans notre société, si je peux dire, nous sommes mis en compétition, toutes et tous. Que ce soit à l'école, au niveau des notes, au travail, là où pour faire bonne impression devant le patron arrive, le sport, le football, le badminton, ou même les relations amoureuses, certains veulent prouver qu'ils aiment plus leur compagnon que l'autre. Ils se basent, d'autres, sur la solidarité, le respect, la confiance. Mais aujourd'hui, comme on le voit partout, les conflits sont multiples et presque inévitables. La preuve, ils sont tous en compétition, chacun pour sa pomme, même au niveau de l'économie, hausse des prix. Mais la solution à tout cela serait la solidarité, la paix. Même dans Black Mirror, dans l'épisode Nosedive, là où les personnes sont notées en direct, plus leur note est haute et plus ils ont la possibilité d'acquérir de nombreuses choses. À l'inverse d'une note basse, là où ils ne sont pas très populaires et avec une vie misérable ou moyenne. En bref, la solidarité est une clé, une porte de sortie sûre à notre histoire.
Équipe Mission Impossible au rapport.
Document top secret transmis au jury.
Alors, mission accomplie ?